Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Au cœur de l'homme existe une aspiration profonde à la liberté et à la plénitude. Une aspiration qui, chez les Français comme chez d'autres, prend la forme d'une apparente contradiction, avec d'un côté un fort désir de bouger, d'avoir une vie trépidante, riche en émotions, et d'un autre côté un vrai désir de quiétude, de paix et de sérénité. Comment sortir de cette contradiction et trouver le chemin du bonheur? En renouant avec notre vie intérieure et en comprenant ce qui se joue, nous dirait mon invité de ce matin, auteur d'un traité de vie intérieure.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Jean-Guillaume Xéry, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Approchez-vous bien du micro. Vous êtes donc psychanalyste et biologiste médical, auteur entre autres donc d'un ouvrage. C'est donc le dernier paru, Prenez soin de votre âme, petit traité d'écologie intérieure paru aux éditions du Cerf. Voilà, ouvrage roboratif, mais plus que bienvenu par les temps qui courent. Je l'ai pris d'abord comme un outil pour comprendre comment est l'homme, comment l'on fonctionne chacun, et puis dans quel contexte, on va dire, sociétal ou thérapeutique on se trouve, et vous nous donnez quelques pistes et solutions pleines de sagesse, on va le découvrir. Je voulais juste vous commencer l'émission, vous en réagir sur cette apparente contradiction. Quel est votre sentiment comme médecin, comme homme tout court, homme contemporain? Est-ce que vous trouvez que se dessine de plus en plus dans la société française cette injonction contradictoire? Est-ce que ça fait écho?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a à la fois une quête, une recherche d'intériorité, plus exactement vers l'intériorité de la plupart de nos contemporains, et en même temps une intériorité qui souffre. Voilà. Et ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, puisqu'on vit dans un environnement qui n'est pas du tout favorable finalement à une vie intérieure. Mais comme elle est constitutive de notre humanité, à la fois manifestation positive et un peu réactionnelle, on va chercher un petit peu justement les chemins pour retrouver cette intériorité que notre société de consommation, de notre société d'hyperactivité, de notre société matérialiste, de notre société aussi qui nous a coupé de tout lien avec la nature écologique qui fait écho à notre nature humaine, fait que notre intériorité, effectivement, on a besoin d'essayer de la chercher. Et puis, elle souffre aussi, notre intériorité. Donc, elle souffre et on le voit à travers beaucoup de manifestations qui sont aujourd'hui très répandues dans notre société, dont nous pouvons être nous-mêmes peut-être atteints ou certains de nos proches. Je pense, par exemple, à toutes les addictions. Alors, les addictions à des substances, mais de plus en plus des addictions, ce qu'on appelle comportementales, à des activités. Pensons, par exemple, à l'addiction aux écrans, ce qu'on appelle la cyberdépendance.
Je recevais mardi les AFC et entre autres, on parlait d'une récente étude chez les adolescents 13-19 ans, je crois que c'est à peu près 10 à 15 heures par jour quasiment.
C'est ça. On est tout le temps on consulte entre son téléphone PC, pendant la récré, tablette,
en arrivant
téléphone.
À l'école, etc. etc.
Ouais. C'est ça, exactement. Et sur les 20-40 ans, il y a environ 30%, je crois que c'est entre 30 et 33% des 20-40 ans qui consultent leur téléphone 150 fois par heure.
150 fois par
heure. Mais c'est facile, ça va vite. Je vérifie si je n'ai pas un SMS, si je n'ai pas un email, si je n'ai pas une notification, si je n'ai pas un WhatsApp. Voilà. Donc, addiction aux écrans, et avec derrière l'addiction à la pornographie, l'addiction aux achats compulsifs, ainsi de suite. Et puis, l'addiction au travail, qui touche aussi de plus en plus d'entre nous. Donc, les addictions, l'épidémie de dépression, de troubles anxieux, de gestes suicidaires, de passage à l'acte, mais aussi l'épidémie d'obésité. Je parle de l'obésité, on va se dire, mais pourquoi il nous parle d'obésité sur une émission de vie spirituelle? L'obésité, c'est une maladie métabolique, une maladie des hormones, de stockage de graisse. Oui, mais pas seulement. Et l'INSERM, qui est donc le grand institut en France qui fait la recherche médicale, a qualifié l'obésité, effectivement, de maladie épidémique, maladie civilisationnelle, maladie de société. Donc, ça veut bien dire que c'est d'abord dans nos modes de vie que se jouent les choses, plus que d'abord dans un dysfonctionnement hormonal. Et tout ça, ça pointe à la fois cette quête d'intériorité et puis ces souffrances, ces maladies de l'intériorité vers justement notre vie intérieure sur laquelle on n'a plus de mots, en fait.
Alors, votre livre est, il faut le dire, quand même exigeant. mais on va comprendre pourquoi. Vous nous faites un petit peu voyager. Alors, on ne va pas détailler l'ensemble de l'ouvrage, mais je propose quelques grandes époques. Vous nous aidez à comprendre aussi qu'aujourd'hui, par ce panorama historique de la vision que l'on a eue à travers l'histoire de l'homme, nous aide à comprendre en fait aussi dans quel monde l'on est ou de quoi l'on hérite. Vous citez donc l'homme antique, l'homme classique et l'homme moderne. On pourrait presque parler après de l'homme postmoderne, je ne sais pas. Si vous deviez commencer donc par l'homme antique, alors tâchez, vous parlez d'abondance de cœur, tâchez d'être synthétique, qu'on ait le temps de parler du plus de choses possible. Vous disiez que dans l'Antiquité, on avait une certaine idée de l'homme, hein, l'homme un animal rationnel. Vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est et que ça induit du coup à l'époque une manière de soigner.
Oui, alors c'est un défi, hein, effectivement, de façon très synthétique. Mais peut-être dire effectivement pourquoi, dans un livre de spiritualité et de psychologie, revenir sur ces visions de l'homme. Parce que depuis que l'homme est homme, finalement, c'est de sa caractéristique. Il s'interroge sur, finalement, qu'est-ce que je suis ? Voilà. Et derrière, qu'est-ce que je suis, en fait, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux savoir, qu'est-ce que je peux espérer. Bon, voilà. Donc, et qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, les réponses apportées ont été différentes. En gros, il y a d'abord toute la vision de l'homme que portait l'homme antique. En gros, depuis Aristote jusqu'au XVIIe siècle, qui a dominé. Et c'était tout à fait intéressant. L'homme était un animal doué de raison, le fameux logos, dont on parle beaucoup les Grecs, mais d'ailleurs dans la tradition chrétienne aussi, qui faisait que c'était un animal comme les autres, mais quand même un peu différent, parce qu'il était capable de raison, un homme rationnel et politique. C'est-à-dire qu'il cherchait en même temps à bien vivre, le bien vivre et le bien agir. Donc c'était un animal un peu différent des autres, puisque grâce à sa raison, finalement, il cherchait du sens. Et il cherchait une certaine sagesse. Voilà. C'était donc un corps et une âme profondément unis qui cherchaient du sens et de la sagesse. Et c'est intéressant parce que du coup, les psychothérapies à l'époque, c'était essentiellement justement de l'ordre des pratiques de sagesse, des pratiques philosophiques. C'était ça les pratiques du soin de l'intériorité. C'était des pratiques de sagesse, de philosophie, de transformation intérieure que s'appliquaient d'abord les thérapeutes pour ensuite les proposer à leurs disciples, entre guillemets. Et puis, à partir du 17e jusqu'au 19e...
L'homme classique, donc.
L'homme classique, voilà, on va dire, on peut faire un cocorico, puisque là, c'est surtout Descartes qui portait un petit peu ça. On a vraiment là eu un changement très important puisque là, l'homme s'est mis totalement à l'extérieur de la nature parce que finalement, ce qui distinguait l'homme dans cette vision, hein, l'homme du reste de la nature, c'est que il y avait cette dualité corps et âme, hein, ce dualisme que Descartes a très bien formulé entre le corps et l'âme, un corps qui est un peu comme une machine, et une âme, pour le coup, immatérielle.
Donc, une chose pensante unie à un corps-machine.
C'est ça, une chose pensante et un corps-machine. Donc là, ça a eu évidemment des répercussions très positives. Notamment, ça a été ça qui a justifié et expliqué le départ de toutes les recherches en anatomie, l'exploration des cadavres, la chirurgie, qu'on puisse manipuler le corps d'une façon un peu désacraliser le corps. Et c'est ça qui a donné, finalement, un peu le point de départ de la médecine technique. Mais l'aspect négatif, c'est ce dualisme qui fait que, notamment en Occident, on peut être vite avec d'un côté la raison et puis de l'autre les émotions, l'extériorité versus l'intériorité. Ce sentiment, justement, un petit peu de perte d'unité, finalement, qu'on essaie de trouver dans d'autres spiritualités.
Une vision très matérialiste aussi, peut-être, du corps. C'est...
Très clairement, très clairement.
Alors après, merci et bravo de la prouesse, hein, d'avancer à grandes enjambées comme ça, mais comme ça, tout le monde se délectera de se plonger dans votre ouvrage. L'homme moderne, alors le sous-titre, c'est un sujet assujetti. Qu'est-ce que vous voulez signifier par là ?
Alors là, effectivement, c'est à partir du fin du 19e et tout le 20e. Et là, c'est intéressant, c'est que du coup, là aussi, on bascule dans une autre représentation que l'homme a de lui-même. Alors, on parle de représentation dominante, hein, les autres n'ont pas disparu, même encore aujourd'hui, mais on parle de représentation dominante. L'homme assujetti, c'est que finalement, l'homme n'est pas regardé en tant que tel, voilà, avec une essence, comme c'était le cas pour Aristote ou pour Descartes, mais il n'est vu que par le biais de ses déterminismes. Et tout le XXe siècle, c'était l'époque où ont vraiment explosé, au sens où se sont développées toutes les sciences humaines, la psychanalyse, la sociologie, l'éthologie, l'anthropologie, la linguistique, la sémiotique, toutes ces disciplines qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont toutes des sciences dites humaines et qui regardaient chacune l'homme sous une petite fenêtre. Et donc l'angle du déterminisme. Donc finalement, l'homme, il n'existe pas en tant que tel, nous dit cette représentation, mais il n'existe qu'à travers, finalement, des conditionnements qui vont être sa langue, sa culture, son inconscient, l'histoire qu'il a vécue. Mais en tant que tel, finalement, le sujet n'existe pas. Voilà. Et donc là, l'essor thérapeutique qui a été en lien avec ça, c'est évidemment la psychanalyse, les psychothérapies, les thérapies systémiques, où là, on étudie justement et on travaille sur l'environnement de l'homme, l'environnement intérieur, l'inconscient, ou extérieur, les thérapies systémiques.
Vous parlez beaucoup de... Vous avez cette expression, l'homme structural n'a pas d'essence. Structural, ça veut dire quoi en fait?
C'est l'homme structural, c'est justement...
On étudie l'homme à partir d'une structure particulière?
L'homme qui est structuré par tout ce qui l'entoure. Et donc, finalement, l'homme structural n'a pas d'essence parce qu'en fait, il n'est que dépendant de déterminismes inconscients ou qui lui sont extérieurs. Vous voyez ce qui est très loin de l'image d'Aristote, d'un homme, justement, dans sa représentation, hein, qui était doué de raison, qui était capable de chercher du sens, de produire de la sagesse, ou bien de l'homme de Descartes, qui est capable de penser. Voilà, une chose pensante avec un corps machine. Là, au contraire, finalement, l'homme, il se dissout. Il y a une autre expression qui est utilisée, c'est que finalement, l'homme se dissout dans tous ses déterminismes, en fait. Entre sa langue, sa culture, son histoire inconsciente, la grande histoire, l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, son environnement. Finalement, moi, je suis que le fruit de tout ça, quoi. Donc, finalement, je n'existe plus vraiment. J'ai du mal à dire « je ». Voilà.
Et donc, aujourd'hui, en développement de plus en plus, parce qu'on hérite aussi de ce que vous venez de décrire, l'homme neuronal, donc un vivant comme les autres, là ça parlera probablement à un certain nombre, on sent bien qu'on touche du doigt tout cela, je citerai juste un passage, pour les neurosciences, l'homme est un simple vivant comme les autres, un animal comme un autre, et un peu plus loin, ne sommes-nous que notre cerveau. Qu'est-ce que c'est que cet homme neuronal qui arrive ?
Ben voilà, en fait, vous avez tout dit en citant ces phrases. Donc ça, je dirais, c'est la dernière révolution anthropologique, hein, celle que nous vivons, nous, génération qui nous parlons et qui nous écoutons là. Et c'est lié à l'essor des... à chaque fois, ces bascules anthropologiques sont liées à l'essor de nouvelles sciences. Je ne l'ai pas dit, pardon, mais l'homme d'Aristote, c'était la cosmologie, la zoologie. Donc le modèle était un peu celui de la nature. L'homme était encore proche de la nature pendant l'Antiquité et tout le Moyen-Âge. Descartes, c'était la physique, la mécanique qui ont fait que, bah, du coup, le corps machine. C'est l'essor des sciences humaines que j'évoquais qui ont produit cette représentation de l'homme structural. Et donc, l'homme neuronal dans lequel, finalement, on rentre vraiment de plein pied aujourd'hui date grosso modo d'après-guerre, donc c'est récent, deuxième moitié du XXe siècle, là on est vraiment dedans, est lié à la révolution des neurosciences et à la révolution des biotechnologies, donc connaissance du génome. Donc c'est l'intelligence artificielle et manipulation génétique. Et donc là, l'idée, c'est quoi la représentation? C'est de dire qu'effectivement, finalement, l'homme se réduit à son cerveau. On a, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, été capable d'explorer le fonctionnement du cerveau. Et l'idée, dans cette représentation, c'est de considérer que tout ce qui caractérise l'humain, sa pensée, le langage, les émotions, les sentiments, mais aussi la croyance, aussi la recherche de sens. Ce ne sont que... Voir la conscience, exactement. Ce ne sont que des phénomènes neurophysiologiques. En gros, c'est des interactions entre synapses, entre neurones qui expliquent tout ça. Donc finalement, dans cette représentation-là, effectivement, l'humain, en fait, est un organisme biologique, mais au même titre que finalement un organisme animal, végétal, ou même, de plus en plus, un robot.
Alors, les conséquences, quelque part, on les a un peu abordées dans cette contradiction qu'on évoquait au début de l'émission. Pour ceux qui, par hasard, nous prendraient en cours de route, je rappelle, hein, on va dire un homme qui cherche une vie riche, pleine, comblante, riche en émotions, etc. Et en même temps, un homme qui cherche quiétude, paix, sérénité. Et, on va dire, fort de cette contradiction, un certain nombre d'addictions structurelles dans lesquelles notre société contemporaine, aujourd'hui, tomberait. Si vous deviez résumer à la fin de cette première partie, fort de ce parcours historique, de quoi hérite-t-on aujourd'hui? Probablement que c'est ce qu'on découvrira dans la seconde partie. Est-ce que l'homme contemporain est fondamentalement, alors c'est peut-être un peu tarte à la crème de dire ça, mais quelqu'un qui est non seulement coupé de l'idée, d'une juste vision qu'il a de lui-même, mais quelqu'un qui est totalement coupé, amputé de la partie fondamentale de son être qui est la dimension spirituelle?
Oui, alors j'aime bien votre question, de quoi est-ce qu'on hérite? On hérite de choses formidables, de recherches scientifiques, de connaissances de l'homme, d'approches thérapeutiques, psychothérapeutiques, de médecine extraordinaire. Donc, on hérite de choses extrêmement positives, mais on hérite aussi de deux choses beaucoup plus péjoratives, pathogènes, qui nous font du mal. Un, des modes de vie de fou, voilà, qui nous rendent addicts, qui nous rendent hyperactifs, qui nous rendent déprimés, qui nous rendent anxieux, qui nous font perdre du sens. Et ça, c'est la vie quotidienne de beaucoup d'entre nous, qu'on le reconnaisse ou pas, qu'on en souffre ou pas. Voilà, tous les chiffres le montrent. Donc, un, on a des modes de vie de fou. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, en fait, ces visions de l'homme, et notamment celle qui est en train aujourd'hui de prendre de plus en plus de place de l'homme neuronal, en fait, nous amputent d'une partie de notre être. En fait, nous sommes coupés de la nature environnementale, mais aussi de notre nature humaine. Pourquoi ? Parce que cette vision de l'homme est strictement matérialiste et qu'elle ne laisse aucune place, en gros, à la part spirituelle de notre être. Voilà. Et c'est là où la tradition chrétienne peut être extrêmement profitable pour l'humanité, pas simplement pour les chrétiens, pas simplement pour les catholiques, pour les croyants, mais simplement parce que le patrimoine chrétien apporte une vision de l'homme beaucoup plus complète. Donc cette représentation de l'homme, notamment l'homme neuronal, en aucune façon elles sont fausses, mais elle est juste incomplète, ce qui est différent. Connaître le fonctionnement du cerveau, connaître le fonctionnement du corps, c'est extraordinaire. Mais dire maintenant que l'humain se réduit à son cerveau ou à son corps, là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui nous fait du mal. C'est comme si on veut faire rentrer un pied de 43 dans une chaussure de 38. On va essayer de forcer, ça va faire mal. Voilà. Et il en est de même pour notre partie spirituelle.
Bref, vous l'aurez compris, Jean-Guillaume Xéry, c'est pas demain la veille qu'il se fera télécharger son cerveau, comme on le dit aujourd'hui, parfois, ou comme on le lit. Et heureusement, parce qu'il y aurait de quoi faire. Merci beaucoup de ce parcours à grande enjambée. On va faire une première pause musicale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Prenez soin de votre âme, petit traité d'écologie intérieure » paru aux éditions du CERF.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc petit traité de vie intérieure, petit traité pardon d'écologie intérieure avec Jean-Guillaume Xéry pour ceux qui nous rejoindraient en direct. J'ai oublié de le dire au début de cette émission, mea culpa, depuis les studios de Lourdes. Troisième émission spéciale donc à l'occasion du pèlerinage du Rosaire. Il passe ici beaucoup de monde, pas seulement des dominicains ou des hospitaliers. Et donc on profite du passage d'un certain nombre d'intervenants pour les inviter dans nos studios et on en est ravis. Le titre donc complet de cet ouvrage, en tout cas le dernier de Jean-Guillaume Xéry, qui pour rappel est psychanalyste et biologiste médical, « Prenez soin de votre âme, petit traité d'écologie intérieure ». Dans votre introduction, vous avez cette phrase, vous dites « Il y a quelques années, un journaliste réputé concluait ses chroniques matinales par un « Nous vivons une époque formidable ». Je crois que c'était Yolande Delavigne d'ailleurs, si je ne me trompe pas, peu importe. Vous laissez entendre qu'en fait la réponse à, enfin pour vivre une époque formidable, il faudrait, alors ça peut rebuter certains, mais vous allez nous convaincre du contraire, faire appel aux anciens et en l'occurrence au père du désert. Est-ce que vous pouvez expliquer cette réalité ou ce qui vous apparaît comme flagrant?
Oui, en tout cas, faire appel effectivement à des gens qui ont l'expérience justement de ce qui peut aider l'homme à avoir une vie équilibrée, à être plus en harmonie avec lui-même et avec son environnement. Voilà. Et en l'occurrence, c'est le cas ce qu'on appelle les pères et mères du désert, à savoir ces hommes et ces femmes qui ont vécu, on va dire, les quatre premiers siècles du christianisme et qui nous apportent finalement des réponses aux deux enjeux que nous évoquions tout à l'heure. Un mode de vie de fou, et deux, une vision de l'homme actuel qui se répand, qui n'est pas fausse, mais qui est incomplète. Et eux, en fait, ils apportent des réponses à ces deux enjeux. La première chose, finalement, qu'ils apportent, c'est une vision de l'homme beaucoup plus complète. Et nous avons besoin, comme je disais tout à l'heure, de faire rentrer un pied de 43 et une chaussure de 38. Il faut juste prendre une chaussure de 43, quoi. Voilà. Et que la nature humaine, elle est un corps, un psychisme, mais aussi un esprit, une vie spirituelle. Et ça, là-dessus, il y a une représentation qui est claire et qui nous fait du bien, parce que finalement, c'est juste se représenter comme nous sommes. Voilà. Et donc, là-dessus, il y a un apport très, très important, effectivement, des anciens, des pères du désert, qui est accessible, mais sans aucune, considération de foi. Hein, mon bouquin, c'est un bouquin, finalement, de psychologie. Hein, c'est pas un bouquin, de proclamation de la foi chrétienne. Hein. D'autres pour ça, dans mon précédent. Mais là, c'est un bouquin davantage de psychologie et d'anthropologie, de comment nous sommes faits. Et ce que nous disent les pères, c'est qu'effectivement, nous sommes faits d'un corps et d'un psychisme, okay, pas de souci, mais aussi d'une vie spirituelle.
Alors, on y vient. Je donne juste le titre du troisième chapitre parce que ça peut montrer aussi la perspective. On n'est pas humain, on le devient ou pas. Voilà, l'enjeu est là. Hein, c'est un jeu de connaissance de soi et de croissance. Alors, cette précision faite, corps, âme, esprit, expliquez-nous, puisque derrière ces termes, on ne met pas forcément ce qui est juste.
Ouais. Alors, merci effectivement de citer cette phrase, on n'est pas humain, on le devient, parce que ça aussi, ça dit quelque chose, justement. Ça dit quelque chose de la représentation que, justement, les pères du désert ont de l'homme, et toute la tradition chrétienne, en fait, derrière. C'est que on est du verbe naître. On est un humain, mais l'enjeu d'une vie, c'est passer de être un humain à devenir humain. Hitler et Staline étaient chacun un humain. Je doute, a priori, qu'ils étaient très humains. Donc, être un humain, c'est pas dur. On l'est pas par la naissance, on l'est biologiquement. L'enjeu, c'est de devenir humain. Voilà. Et donc, ça veut dire quelque chose en dynamique. C'est toute la dynamique de la transformation personnelle, de la conversion. C'est ça, la conversion. C'est pas devenir un bon catholique qui va à la messe tous les dimanches. C'est de gagner en humanité, toujours progressivement. Et comment gagne-t-on en humanité? En habitant justement ces trois dimensions de la personne, corps, âme, esprit.
Alors expliquez-la pour les nuls.
Alors, le corps, on voit bien ce que c'est. Pour les pères du désert, il faut s'imaginer un peu un sandwich à trois tranches. Voilà. Il y a une première tranche, en fait. Chacune des trois tranches, c'est corps, psychisme, esprit. Okay, donc le corps, en fait, il est tourné vers l'extérieur et il est aussi tourné vers la tranche du milieu. D'accord? Ça, c'est une... Voilà. Et le corps, c'est le monde des objets. C'est le monde du matériel. Grâce à nos sens, nous sommes en contact avec la réalité matérielle. Cette réalité matérielle, on en transmet aussi, finalement, au psychisme. D'accord ? La tranche du milieu de notre sandwich à trois tranches, c'est le psychisme.
Ce qu'on appelle donc l'âme.
Ce qu'on appelle l'âme, exactement. Le psychisme, lui, donc, il est entre les deux tranches que sont le corps et l'esprit. Donc, il est en contact avec les deux. Le psychisme, là, on n'est plus dans le monde des objets, on est dans le monde des personnes, le monde du sujet. C'est ce qui fait que je vais pouvoir être dans l'empathie, je vais pouvoir me laisser toucher par l'émotion de l'autre, mais que j'ai aussi une intelligence rationnelle. En gros, c'est le monde, un, de l'intelligence rationnelle, et deux, des émotions, voilà, comme on dit aujourd'hui, hein, c'est ça la science cognitive. Pour les pères du désert, notre psychisme, notre âme, a trois fonctions. Celle de chercher du sens, on a une intelligence pour ça, celle d'aimer, de désirer, c'est le lieu du désir aussi. Et c'est aussi le lieu de la force. Donc, c'est intelligence, désir et force. Nous sommes faits pour chercher, aimer et lutter.
Alors, arrêtez-vous un tout petit peu et développez un tout petit peu. Là, on est toujours
dans
l'âme, dans le psychisme.
Voilà.
Redéveloppez un tout petit peu.
Alors,
chacun.
Les trois facultés que les pères du désert attribuent, et je crois qu'on en fait tous plus ou moins l'expérience, hein, c'est l'intelligence, désir et force. L'intelligence, c'est on est fait pour chercher du sens. Chercher du sens. Et on le voit bien. Quand on n'a plus de sens dans notre vie, quand on n'a plus de sens dans notre travail, quand on ne trouve plus de sens dans une relation conjugale, ben, on n'est pas bien, on est malheureux et on tourne en rond et ça ne va pas. Donc, on est fait, effectivement, pour trouver du sens. Pourquoi ? Parce qu'en nous, il y a cette faculté d'intelligence. Le désir.
Excusez-moi, je fais juste un petit arrêt. Enfin, ça fait écho à beaucoup d'autres émissions, probablement que les auditeurs l'entendront. Souvent, les invités que je reçois, ils laissent entendre que la première chose qu'ils soignent, c'est de retrouver du sens.
Voilà. Oui. Alors, par contre, on peut passer effectivement sa vie comme un légume devant la télé. Mais c'est pas que c'est mal ou que c'est bien. C'est juste que ça va pas nous faire grandir parce qu'il y a en nous ce facteur intelligence qui appelle à grandir. Et quand je parle d'intelligence, je parle pas du quotient intellectuel. Hein, cette intelligence que nous avons tous, qui est l'intelligence du cœur. Hein, c'est pas une question de. On a fait des études longues, pas longues, etc. Hein, on sent bien que c'est pas cette intelligence-là. Hein, il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et par contre qui ont le sens de la vie, qui ont le sens de ce qui a de la valeur. Voilà, c'est de cette intelligence-là dont on parle. Hein. On ne parle pas des diplômes. Hein. La deuxième faculté, c'est le désir. Et le désir, il est bien orienté, il est naturellement fécond quand il est orienté vers le fait de servir la vie. Et on voit bien qu'il y a des façons d'aimer qui nous font du bien, des façons d'aimer qui nous ne font pas de bien. Et les façons d'aimer qui font du bien, c'est celles où quoi ? Où je fais du bien à l'autre, où je suis dans une logique de service, où voilà. Et puis, il y a bien des façons d'aimer où je domine, où je me fais dominer, où j'instrumentalise, où je m'aime moi-même à travers l'autre. Ben, on voit bien qu'on sent bien tous que ce n'est pas des choses qui nous épanouissent et qui nous aident à croître. Et puis, il y a la force. Et la force, c'est pareil, c'est une faculté qu'on peut utiliser bien ou mal. On peut l'utiliser bien, c'est-à-dire pour lutter contre l'injustice ou pour tenir dans l'épreuve. Combien de fois, comme si j'ai entendu une personne qui disait mon conjoint il est parti, mais tant pis pour l'instant, là c'est moi qui tiens et notre couple il tient qu'avec moi pour l'instant. Bah, il faut de la force pour ça. Il faut de la force pour tenir face à la maladie d'une personne qu'on aime ou de la mort de son enfant. Il faut de la force. La force intérieure, elle est là. Vous voyez, les pères du désert, ils parlaient de choses très concrètes. Mais cette même faculté de force qui nous habite, on peut l'utiliser pour faire violence, pour se mettre en colère, pour être agressif, pour dominer l'autre, pour le soumettre, ainsi de suite. Donc, ce que nous disent les pères, c'est extrêmement concret. Ce qui nous humanise, c'est d'aimer dans une logique de servir, c'est de chercher du sens, voilà, et c'est d'utiliser notre force pour lutter pour la vie, en fait. Mais on peut l'utiliser autrement. Et dans ces cas-là, ça nous amène aux maladies de l'âme. Ça, c'était la deuxième tranche du sandwich.
Voilà. Troisième tranche du sandwich.
Et la troisième tranche du sandwich, l'esprit. C'est l'esprit. C'est la vie spirituelle. Donc la vie spirituelle...
Donc, ce que communément, on a tendance à appeler l'âme. Mais bon, peu importe.
Oui, aujourd'hui. Voilà. C'est la vie spirituelle qui, elle, est en contact d'un côté donc avec la tranche du milieu du sandwich, donc le psychisme. Et donc, ses facultés, d'accord ? Et puis, est en contact avec l'infini. Voilà. Et donc, c'est ça. Donc là, les deux facultés de la
vie spirituelle... Vous avez l'air d'être habitué à le dire, mais quand même, c'est quelque chose.
Ah, mais c'est, mais non, mais c'est extraordinaire.
Que le sandwich donne sur l'infini, c'est quand même vertigineux.
Exactement. On ne mangera plus nos sandwichs de la même façon maintenant, évidemment. Et donc, ce qui est incroyable dans cette remportation, c'est comment ça rejoint ce que nous vivons. Et que les deux facultés de notre vie spirituelle, c'est un, la volonté libre, donc en gros notre responsabilité. Notre responsabilité de qu'est-ce que je fais de mon intelligence, qu'est-ce que je fais de ma capacité d'aimer, qu'est-ce que je fais de ma capacité de force intérieure.
Voilà. Attendez, là vous revenez à la deuxième tranche du sandwich.
Oui, parce que justement, le propre de la vie spirituelle, qui est le lieu de la volonté libre, c'est justement d'orienter ses facultés. Sinon, viens, je ne suis que soumis à des déterminismes. C'est cette part de liberté profonde et de responsabilité profonde qui est en chacun de nous, qui nous permet, même très partiellement, en fonction de nos blessures, de nos histoires, etc., d'orienter quand même justement ses facultés. Donc, c'est le lieu de ma responsabilité, de ma liberté, de qu'est-ce que je fais, en fait. Voilà. Et puis, deuxième faculté, cette capacité d'être en contact avec l'infini. Parce que le sandwich, non seulement il est ouvert vers l'infini, mais il y a une petite porte, une petite fenêtre que l'on peut ouvrir ou pas. Et on peut passer sa tête dans cette petite fenêtre pour être en contact avec l'infini. Alors, dans la tradition chrétienne, cet infini, c'est Dieu trinitaire, c'est l'Esprit Saint, etc.
Vous laissez entendre dans votre livre qu'on peut s'ouvrir à cette dimension infinie par d'autres biais, deux expériences que nous souhaitons que chacun, en gros, peut avoir vécues. L'émerveillement d'abord, que vous citez, et le deuxième, vous allez m'aider, je ne retrouve plus
la beauté et l'amour.
La beauté et l'amour.
La beauté et l'amour. La beauté et l'amour dans ce qu'elles ont de subjugant. Quand à un moment donné, la seule façon qu'on a de vivre ça, c'est les larmes. Moi, je crois beaucoup aux larmes. Positivement, les larmes, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas que la tristesse. Et les pères du désert, d'ailleurs, pleuraient souvent. Mais simplement parce qu'ils considéraient qu'en fait, les pleurs, c'était une façon d'exprimer ses émotions les plus profondes. Sa vie spirituelle profonde.
Donc c'est pour ça dans les tableaux du christianisme. C'est une stupéfaction devant la beauté ou devant le...
Oui, et que les moments pour dire justement la profondeur de ce que l'on vit positivement. Et c'est pour ça que dans les tableaux, les rares tableaux que l'on a du christianisme primitif, on voit souvent les apôtres pleurer. Et ils ne pleurent pas de tristesse, ils pleurent d'émotions spirituelles. Voilà. C'est ce qu'on appelle le don des larmes. Le don des larmes, c'est on ne pleure pas parce qu'on est triste, c'est au contraire, c'est on pleure tellement on est ému de beauté. Il y a des amoureux qui parfois pleurent justement d'être ensemble et de ce qu'ils vivent. Voilà. Donc en fait, en résumé, l'homme a cette capacité d'être en relation avec l'infini, qui va pouvoir éclairer sa volonté libre et donc orienter même partiellement ce qu'il fait de ses facultés d'intelligence, de désir et de force. Voilà. Et donc, cette seconde naissance, cette devenir, passer de un humain à être humain, c'est qu'on gagne en humanité quand finalement on gagne dans sa vie spirituelle. Et il n'y a pas besoin d'être catho et chrétien et d'aller à la messe tous les dimanches pour ça. J'espère que chacun de nos auditeurs l'aura bien saisi. Pour l'instant, j'ai bien dit que l'infini, dans la tradition chrétienne, on l'appelait le Seigneur, mais d'autres l'appellent la présence, l'être avec un grand E, hein, le tout autre. En gros, c'est ce qui nous dépasse et qui nous donne la vie. En fait, c'est ça le truc.
On a compris. Tout le monde peut manger un sandwich. Pardon, excusez-moi, mais je fais comme des petites poches de pub dans l'émission. J'aimerais avant qu'on close cette deuxième partie avec vous, on aimerait faire en fait une série d'émissions. Je sais pas si vous repassez à Toulouse, on en fera une série. Pourquoi pas, par exemple, à l'occasion de l'Avent, ça pourrait être une belle série, ça. Invitation est lancée. Que vous nous parliez des maladies de l'âme. Alors, les maladies de l'âme, on va pas tous les citer. C'est ce qu'on appelle aussi parfois donc les péchés capitaux, mais en effet, maladie de l'âme, tout de suite, c'est beaucoup plus compréhensible. On voulait s'arrêter sur... on n'aura pas le temps probablement d'en évoquer trois, mais au moins peut-être deux. Commençons au moins par l'avidité. Alors l'avidité, ça parlera probablement à beaucoup. Vous l'avez un peu illustré déjà au début de l'émission par certaines dérives contemporaines ou pathologies. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous choisiriez comme avidité qui vous semble... l'avidité amoureuse, est-ce que ça pourrait être une des grandes avidités contemporaines?
Alors, une petite chose, si vous permettez, avant qu'on plonge effectivement dans les maladies de l'âme, les maladies d'origine spirituelle, c'est que les pères du désert avaient une vision très précise de tous les types de maladies. Ils distinguaient les maladies du corps, les maladies du psychisme, voilà, et puis effectivement des maladies d'origine spirituelle, celles dont on va parler. Et ces maladies d'origine spirituelle, c'est quoi? C'est justement des maladies qui font que la volonté libre, justement, notre vie spirituelle n'oriente pas comme il faut, justement, notre intelligence, nos désirs et notre force. Et donc, les maladies d'origine spirituelle, c'est des maladies qu'il y a dans le psychisme, qui touchent notre intelligence ou bien notre désir ou bien notre force, en faisant que ces facultés ne sont pas utilisées comme il convient. Voilà. Deuxième remarque avant qu'on ne plonge là-dedans, vous avez parlé, et je vous en remercie, des péchés capitaux. Or, et ça, c'est absolument dramatique, justement, que à un moment donné de l'histoire du christianisme, on se soit, de mon point de vue, totalement empêtré dans ces péchés capitaux. Ça n'était pas du tout la vision de départ du christianisme primitif, qui voyait ça, au contraire, en termes de maladies dont on peut guérir, sous réserve, justement, de prise de conscience, de conversion, de vies intérieures plus riches. On était dans quelque chose de l'ordre de l'équilibre intérieur et pas du tout du péché. Et c'est dans ce sens, évidemment, où moi j'écris ce livre.
Donc, en tout cas, ça serait beaucoup plus compréhensible pour le grand public si on utilisait le terme maladie à chaque fois qu'on utilise le terme péché.
Et c'était bien ça au départ. C'est pour ça que moi j'invite vraiment chacun à s'intéresser à ce que disent les pères du désert. Donc, ces maladies, il y en a plusieurs. Sur les classifications, il y en a même 8. Effectivement, moi, il y en a peut-être une, effectivement, je crois, très importante, c'est celle que vous évoquez, qui sont les avidités. En fait, eux, ils parlaient... Maladie d'origine spirituelle, les avidités. Donc ça, c'est une maladie du désir. Hein. Intelligence, désir, force, c'est trois fonctions. Les avidités, c'est maladie du désir. Voilà. Où le désir n'est pas orienté comme il faut ou ce vers quoi il faut. Et eux considéraient qu'il y avait trois maladies de l'avidité particulière. Avidité d'argent, avidité de sexe et avidité d'alimentation. Et on voit bien dans notre maladie d'aujourd'hui...
Je me demandais s'ils n'avaient pas la télé, mais bon, peu importe.
Mais ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ça rentre effectivement là-dedans, dans ces formes d'avidité. Hein, quand on parlait tout à l'heure d'épidémie d'addiction, d'addiction de sexe, d'addiction par rapport à l'obésité, de maladie d'obésité, d'addiction par rapport à l'argent, d'addiction par rapport au travail, d'addiction par rapport à l'écran, d'addiction par rapport au portable, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire, mon désir est totalement détourné justement vers, alors, qui le sexe, la pornographie, qui les achats compulsifs, etc. Voilà. Donc, toutes ces maladies que les pères du désert appelaient en fait des maladies de l'avidité, matériel, argent, sexe, alimentation, objets, compulsion, c'est vraiment ces maladies qu'ils avaient identifiées. Et ça représentait beaucoup de tentations dans la vie des moines. La deuxième maladie, si vous le permettez, qui me paraît vraiment importante, c'est la maladie du narcissisme et de la vanité. On peut dire pourtant, les moines, qu'est-ce qu'ils en connaissent? Bah, ils en connaissent qu'en fait, même si on ne vivait pas la même époque et on n'avait pas la même vie qu'eux et nous, l'âme humaine reste la même. Et c'est pour ça qu'en fait, ils connaissent aussi bien la vie intérieure, c'est que pour le coup, ils consacraient tout le temps à l'observation de la vie intérieure. Donc c'est pour ça que tout ce qu'ils ont écrit est de très très grande qualité, de très grande qualité et super actuel. Et donc le narcissisme et la vanité, c'est finalement, je commence à me faire des films, je pense à moi, je me fais des plans de carrière, il faudrait que je devienne le supérieur du monastère, finalement, est-ce que l'homélie que j'ai faite était belle, est-ce qu'on m'a regardé, est-ce qu'on m'a écouté, puis moi je suis plus charitable que le voisin. Ça, en termes d'aujourd'hui, c'est simplement juste le monde médiatique dans lequel on vit. C'est les réseaux sociaux, c'est les selfies, c'est je vais compter le nombre d'amis que j'ai sur Facebook, le nombre de retweets de mon dernier tweet, finalement tout cet narcissisme auquel la pub, le marketing nous renforce en fait hein, là-dedans. Donc ça, c'est une maladie vraiment d'origine spirituelle extrêmement forte qui fait que grosso modo, plutôt que c'est une maladie aussi du désir, plutôt que de me tourner vers le désir de servir l'autre, voilà. Je vais tourner le désir vers moi-même pour me contempler, pour me contenter, pour me satisfaire, voire m'auto-satisfaire. Voilà.
Alors, je triche parce qu'il faudrait qu'on finisse, mais j'avais quand même une question qui peut peut-être introduire la suivante. Alors, je vous demanderai peut-être de faire court et puis on pourra le développer après. Est-ce que toutes ces maladies, enfin, faut-il rappeler que ces maladies procèdent, on va dire, de désirs légitimes. Chacun, j'avais lu ça à propos des tentations du Christ, chacun a envie d'être aimé infiniment, a envie d'être comblé, que ses sens soient comblés infiniment ou d'être sécurisé infiniment. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose qui se joue? C'est qu'à partir du moment où on a pris conscience de ce qu'on est, on accepte un peu de lâcher. Il n'est pas mauvais de vouloir être comblé.
Ah bien sûr, on est fait pour ça. Le propre de l'homme, je pense à la différence de l'animal, c'est l'infini de son désir. Voilà. C'est-à-dire que une lionne qui va vouloir nourrir ses lionceaux, elle va tuer une gazelle et pas plus, ça lui suffit. Donc les animaux n'ont pas saccagé la nature. L'homme, parce que son désir est infini, alors qu'il représente très très peu finalement par rapport aux animaux, il est capable à lui tout seul de faire exploser la planète parce que son désir est illimité. Voilà, donc effectivement, c'est naturel, c'est consubstantiel à l'homme, ce désir illimité et infini. Voilà. Et on en revient effectivement à ces facultés de désir, de chercher du sens. Notre recherche du sens, elle est aussi infinie. Nos désirs sont infinis, mais notre puissance de force aussi. La question, c'est comment, vers quoi je l'oriente? Et c'est là où on a besoin, où on engage notre responsabilité et qu'on a besoin d'être éclairé par un infini qui, lui, justement, nous donne la vie et quelque part nous nourrit, nous influence, nous inspire, nous insuffle, finalement, ce qui est bon pour nous et ce qui nous entoure, en fait.
Jean-Guillaume Xéry, prenez soin de votre âme. Petit traité d'écologie intérieure paru aux éditions du Cerf. On fait une courte pause et on vous retrouve après, quand bon médecin, vous allez nous parler des remèdes.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, petit traité d'écologie intérieure. Donc, pour rappel, pour ceux qui nous prendront en cours de route, avec Jean-Guillaume Xéry, auteur de Prenez soin de votre âme, avec le sous-titre qui est le titre de l'émission. Jean-Guillaume Xéry, donc, qui est psychanalyste et biologiste médical, auteur d'un certain nombre de livres, celui-là est son dernier. Vous avez une expression dans votre livre qui m'a beaucoup parlé. Vous parlez de la vie en 3D. Alors, probablement que c'est pour évoquer donc ce triptyque corps, âme, esprit, mais pas que. C'est une manière de vous inviter en fait les auditeurs à rentrer dans la réalité augmentée qui est la vie est spirituelle. Enfin, en tout cas, de prendre cette part. C'est comme ça que je l'ai compris. Et donc, de se nourrir de cette sagesse, comme on l'a dit à plusieurs reprises, des pères du désert. Est-ce que vous pourriez juste dire un mot d'introduction sur cette vie en 3D? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, bah en fait...
On peut vivre toute sa vie en 2D, c'est...
Bien sûr. On peut vivre toute sa vie, effectivement, avec simplement la dimension corps et psychisme. Bien sûr. Et finalement, c'est le plus naturel. Puisque dans la vie spirituelle, il faut y accéder. C'est ça qui nous fait devenir humain fondamentalement. Hein. Et quand je dis spirituel, c'est pas, encore une fois, d'être un bon catho qui arrive tous les dimanches. Je parle d'accéder à son humanité profonde, hein, et de gagner justement en volonté libre, de gagner en liberté, laissant toujours plus notre liberté se faire inspirer justement par être inspiré par cet infini qui, du coup, nous permet alors d'orienter notre intelligence, notre désir et notre force vers des choses qui sont vraiment vertueuses au sens qui nous font croître et qui font croître les personnes qui nous entourent. Donc c'est passer effectivement d'un mode de vie en 2D, en 3D, mais évidemment on peut passer sa vie entière. Il y a plein de gens qui passent leur vie entière en vivant comme des robots, en reproduisant finalement le modèle familial, parental qu'ils ont eu, en ce qu'on appelle le métro-boulot-dodo, j'ai le temps de rien, de façon j'ai une vie de con. Enfin, pardonnez-moi, mais en fait, c'est ça vivre en 2D. Hein, et c'est pas une critique.
Qui n'a pas un jour pensé ça de sa vie?
Bien sûr.
Peut-être que quand on pose trop souvent, il faut se poser des questions. Alors, les remèdes. Quels sont les grands remèdes dans ces cas-là que les pères de l'Église nous donnent? Vous avez trois portes d'entrée et on en développera deux.
Ouais. Pourquoi être attentif à leurs remèdes? Parce que on l'a vu dans les deux parties précédentes. Parce que finalement, les maladies spirituelles qu'ont identifié les pères sont vraiment nos maladies spirituelles d'aujourd'hui, de notre vie quotidienne. Hein, voilà. Donc c'est là où ce qu'ils disent est important pour nous. Hein. Donc effectivement, en fait, il y avait un peu un trépied pour les pères. Pour cet équilibre intérieur. Hein, donc, c'est quand même ça le sujet. C'est le service, l'hospitalité. Voilà, garder toujours du temps intérieur, le souci de l'autre, voilà, de façon à pas sombrer dans le narcissisme et que je suis fait pour. Voilà. La deuxième chose, c'est les pratiques méditatives, et la troisième chose, c'est la sobriété. Voilà, c'était ça un peu leur trépied de sagesse de vie dont nous avons tant besoin.
Alors, si on développe la sobriété, vous avez une expression, vous me disiez ça en préparant l'émission, vous parlez d'une forme de maladie de l'attention contemporaine, vous appelez ça le hold-up émotionnel. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Et puis vous avez peut-être une autre expression, enfin qui n'est pas que de vous, en regard justement comme un remède, hein, parlons davantage du remède, parce que peut-être que le diagnostic, ça a parlé aux gens, cette émotion hold-up émotionnel, il suffit d'avoir un téléphone portable pour avoir compris ce que ça veut dire, c'est la garde du cœur. En quoi cette garde du cœur? Je me souviens d'une autre expression que j'avais entendue dans une émission de radio, la clôture intérieure.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, ce dont je parle dans mon livre, c'est proche de hold-up émotionnel, c'est hold-up attentionnel.
Attentionnel, pardon.
C'est ça. Oui. Mais en fait, la sobriété dont il est question pour les pères, elle est pas forcément simple à comprendre pour nous contemporains, avec une telle pression que l'on a à l'hyperconsommation, à la sollicitation. C'est vécu comme une privation. Or, la sobriété, c'est pas du tout une privation. C'est une dépollution. On n'arrête pas de parler de la dépollution de la planète, mais on a aussi à dépolluer notre vie intérieure. Donc la sobriété, c'est un remède, c'est une médication pour nous dépolluer. Enfin, il faut voir ça qu'on est totalement pollué intérieurement. Il faut dire les choses à un moment donné des caches, quoi. On peut se raconter des belles histoires et faire du tri sélectif. Là, en l'occurrence, il faut faire du tri sélectif pour notre âme. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon âme? C'est ça le sujet. Et donc c'est ça le sujet effectivement de la garde, de la vigilance intérieure. Du nepsis, comme on disait effectivement en grec. Voilà, c'est qu'est-ce que je mets en place pour faire du tri sélectif? Qu'est-ce que je laisse rentrer? Qu'est-ce que je laisse pas rentrer? Voilà. Et c'est ça le sujet de la sobriété. De quoi j'ai besoin d'être sobre? Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il s'agit de repérer les perturbateurs de mon intériorité. On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens. Vous savez, ces molécules qu'on ne voit pas et qui perturbent notre physiologie profonde, voilà, et qui parfois nous donnent des cancers. Il y a de la même façon des perturbateurs de l'intériorité. Et ces perturbateurs, ça peut être de la publicité, ça peut être du bruit, ça peut être du marketing, ça peut être d'avoir une vie de dingue parce qu'il y a tellement de projets, tellement d'activités, que, etc. Ça peut être de plus dormir parce que je suis totalement addict au travail. Ça peut être d'être envahi par des pensées de vanité ou au contraire qui me dévalorisent en permanence. Donc vraiment, le sujet de la sobriété est essentiel. On ne peut pas être équilibré si on ne fait pas de tri sélectif, si on laisse tout rentrer dans notre intériorité. Et donc peut-être pour ça, on n'a pas le temps de le détailler, mais je renvoie à mon bouquin les éditeurs qui seront intéressés, c'est peut-être se dire de quoi ai-je besoin d'être sobre, et c'est à chacun dans le secret de son cœur évidemment de répondre, hein, mais peut-être dans trois registres. Le registre peut-être de la consommation du matériel. Est-ce qu'il y a des choses sur le plan matériel dont j'ai besoin d'être plus sobre? Sur le plan peut-être des projets, de l'hyperactivité. Voilà. Est-ce que je suis juste dans toutes mes activités? Est-ce que j'en ai pas trop? Est-ce qu'il ne faut pas que je sois un peu... que je me dépollue là-dedans? Parce qu'à un moment donné, j'ai plus le temps de rien, etc. Ben voilà. Et puis, peut-être, troisième registre où on peut peut-être s'interroger, c'est sur les pensées qui m'habitent, les ruminations, les choses que je ressasse, les films que je me fais. On parle beaucoup aujourd'hui de la réalité virtuelle, mais enfin, la première réalité virtuelle, c'est celle que je produis moi-même dans mon cerveau.
Ça va être une émission, je sens, à réécouter, ou en tout cas oui, à prendre le temps de déguster. Je ne dis pas ça parce que vous parlez vite, mais parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est très riche, et je vous dis ça sans vous flatter. J'aimerais qu'on ne finisse pas cette émission quand même par parler donc de la méditation et de la prière. Alors on n'aura probablement pas le temps de tout dire. La première chose qui ressort de votre livre, et puis je pense qu'on l'a bien compris à la teneur de vos propos, c'est que vous ne jetez pas du tout l'anathème sur la tendance contemporaine à la méditation. Ça fait du bien d'ailleurs de l'entendre, parce qu'on n'entend pas souvent des gens d'abord avoir un regard valorisant là-dessus. Expliquez-nous pourquoi, pour vous, c'est d'abord une bonne nouvelle que les gens s'essayent à la méditation.
Ben, c'est une bonne nouvelle parce que, comme on dit au début de l'émission, on a des modes de vie de fou et que tout ce qui peut nous aider à retrouver un petit peu d'équilibre intérieur est bienvenu.
Et le sens du présent, vous insistez beaucoup là-dessus.
Oui, parce que l'expérience que l'on fait moi-même comme thérapeute, je propose à ceux qui le demandent, justement, des pratiques méditatives qui n'ont rien de religieuse ou de confessionnelle. La méditation, là, dont on parle pour l'instant, c'est la méditation à confessionnelle, c'est méditation de pleine conscience, enfin ce genre de choses, qui agit sur la dimension psychophysique, c'est-à-dire sur la dimension corps et âme, hein, avec les bénéfices aujourd'hui scientifiquement documentés, réduction de l'anxiété, réduction du stress, réduction des compulsions, amélioration du sommeil, réduction de la tension artérielle, enfin tout ça qui est maintenant bien documenté, des effets positifs sur le corps et sur le psychisme, des pratiques méditatives que les pères du désert pratiquaient, mais eux, évidemment, il y avait une telle unité dans leur vie que les pratiques méditatives et la prière, c'était la même chose. Aujourd'hui, on a une société sécularisée où on distingue effectivement ce qui est en gros du registre psychophysique, du corps et du psychisme, de ce qui est du registre spirituel. En l'occurrence, effectivement, les pratiques méditatives, elles sont bonnes parce qu'elles nous apportent des bénéfices dont on a besoin pour ralentir, pour se calmer un petit peu.
Faire l'expérience de l'inscription dans le temps présent, vous dites, méditer nous donne l'occasion de quitter le mode de l'avoir pour celui de l'être, et puis non pas juger sa vie, mais juste goûter d'être en vie.
Exactement. Voilà, moi, quand je propose une session de méditation, c'est ça les retours. C'est je retrouve l'unité entre mon corps et mon intériorité. Je fais l'expérience d'être dans le présent et plus à ressasser le passé ou dans mes projets. Et je suis là sans me juger. Voilà. Je suis dans l'instant présent et je quitte l'avoir pour être dans l'être. Ça, c'est l'expérience de la pratique méditative. Mais ça n'est pas la prière. La prière, c'est l'ouverture à l'autre. C'est rentrer dans une rencontre. C'est rentrer dans une parole échangée. Voilà. Parler à Dieu, se mettre à l'écoute d'une parole de Dieu. Sauf que la parole de Dieu dans la prière, dans la tradition chrétienne, c'est un peu paradoxal, mais le langage de la vie intérieure, en fait, c'est le silence. C'est-à-dire que Dieu parle dans le silence. Voilà. Et c'est ça qui, d'ailleurs, parfois peut troubler, c'est qu'on attend une parole, mais que la parole, en fait, on a rarement des voix dans la prière. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. L'essentiel de notre prière, elle est dans le silence. Pourquoi ? Parce que, de fait, le silence, c'est le langage de Dieu, en réalité.
Le silence.
Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Hein. Je ne parle pas d'un silence de rien. Je dis d'un silence, en réalité, qui dit une présence. Voilà. Il peut nous parler aussi par des émotions intérieures, il peut nous parler par des clins d'œil dans la vie, il peut nous parler par des rencontres, il nous parle dans l'écriture. Mais là, on est dans l'oraison, hein, on est dans la prière. Hein. Donc, il y a les pratiques méditatives telles qu'on en parle aujourd'hui à confessionnel, qui sont très bonnes pour la dimension du corps et du psychisme. Et puis, il y a la prière, où là, qui mobilise notre vie spirituelle. Rappelez-vous la troisième partie du sandwich, celle qui nous ouvre vers l'infini. La prière, c'est quand j'ouvre la petite fenêtre de cette troisième partie du sandwich pour m'ouvrir vers l'infini, pour me mettre à l'écoute ou en présence de l'infini. C'est ça, en fait, la prière. Et la prière chrétienne, en l'occurrence, l'oraison, c'est considéré que cet infini, effectivement, c'est Dieu qui se donne, en fait, et qui demande qu'à se donner dans mon cœur, à travers ma vie spirituelle, pour continuer à me donner toujours la vie, en fait. C'est ça, la prière. Voilà. Donc, les deux, non seulement ne s'opposent pas, elles se distinguent. Hein. On n'est pas sur les mêmes... ça ne mobilise pas les mêmes registres. Mais en même temps, comment imaginer une seconde que je puisse être en prière, comme on le vient là, en tout cas, de le définir, si mon corps est totalement tout le temps en mouvement et mon psychisme est totalement perdu dans mes pensées. Il faut être raisonnable. C'est pour ça que les plus grands mystiques dans la tradition chrétienne, en fait, pratiquaient la méditation. Et quand on regarde un peu en détail les prescriptions concrètes, les conseils concrets que donnent les Pères du Désert, que donne Maître Eckhart, que donne Saint Ignace, que donne Sainte Thérèse d'Avila, enfin les grands mystiques de la tradition chrétienne, c'est exactement, en tout cas pour la partie rentrée en prière, pour la partie méditative, les mêmes conseils qu'on entend aujourd'hui dans les conseils de méditation à confessionnel.
Ça sera ma dernière question, et il va falloir que vous répondiez vite, et puis j'aimerais vous citer une dernière fois. Est-ce qu'on peut commencer par ça, en fait ? C'est-à-dire commencer par faire de la place au silence. On a un archevêque à Toulouse qui nous invite souvent à nous interroger sur la place du silence à la radio. On connaît le succès du livre du cardinal Sarah, La force du silence, qui a beaucoup touché et qui a été très lu. Est-ce que ça peut être une manière de commencer à guérir, tout simplement, de faire de la place au silence dans sa vie ?
Vous êtes content, pour une fois, je vais faire une réponse très courte. Je vais répondre par un apophthegme, c'est-à-dire par une phrase d'un père du désert. Quelqu'un lui disait, mais finalement, voilà, comment je peux progresser dans ma vie spirituelle, comment je peux accéder au royaume des cieux, enfin, etc., etc. Il lui a répondu quelque chose de simple. En fait, il lui a dit, assieds-toi, fais silence, apaise tes pensées. Voilà. Donc moi, ce que je souhaite à tous nos auditeurs, c'est qu'effectivement, qu'ils prennent un temps pour s'asseoir, pour faire silence, pour apaiser leurs pensées. Déjà, ça leur fera du bien en direct à leur corps et à leur psychisme. Et alors, ça contribuera, ça les aidera, ça les poussera justement à, en tout cas s'ils en ont le désir, qu'ils aient l'impression de savoir ou pas savoir faire, peu importe, à peut-être se plonger dans la prière et à se tourner vers celui qui les dépasse.
Eh ben, merci beaucoup Jean-Guillaume Xéry. Je rappelle une dernière fois le titre de votre ouvrage, « Prenez soin de votre âme, petit traité d'écologie intérieure » paru aux éditions du Cerf, et invitation est lancée donc pour une éventuelle série de l'Avent. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.